Bertrand Malquier, pour cette deuxième partie, on va rester quand même encore un petit peu sur votre fonction mairie, premier adjoint, puisque vous êtes chargé d'un gros morceau, si je puis dire, c'est la police municipale, la sécurité.
C'est un très gros morceau, effectivement, c'est un engagement fort de campagne de Didier Mouly et c'est une attente aussi de nos concitoyens qui attendent qu'on lutte contre ce sentiment d'insécurité ou les incivilités qui existent à Narbonne aujourd'hui.
Oui, alors, incivilité, moi personnellement, j'aime pas beaucoup le mot parce que je trouve que c'est édulcorer des réalités. J'avais posé la question à monsieur le commissaire qui m'avait dit très souvent, ce sont des délits. C'est comme ça qu'en droit, on les appelle.
Effectivement, un certain nombre sont délits, d'autres sont contraventionnels.
Oui, ou contraventionnels aussi.
Mais il y a un vrai travail à Narbonne, comme dans toutes les villes aujourd'hui en France. Il y a une évolution de la société. Il y a des minorités qui font souffrir des majorités. Il y a des troubles de voisinage. Il y a des consommations de stupéfiants. Il y a une occupation de l'espace public qui est abusif pour certains. Et on a travaillé pendant une première partie de mandat sur de la médiation, sur de la prévention, sur de l'accompagnement pédagogique. Et on s'est aperçu les limites de cette politique pour aujourd'hui changer de braquet à la demande du maire et de passer dans une politique plus offensive que l'on a appelée zéro tolérance avec une reconquête de cet espace public.
Alors là, on va y revenir concrètement. Mais auparavant, il faut quand même expliquer pour les auditeurs et les citoyens la différence entre police municipale et police nationale. Parce que là encore, on ne s'y retrouve pas toujours fort bien.
On reste dans la grande famille de la tranquillité publique avec une police nationale qui a des compétences élargies, dont les pouvoirs d'enquête par exemple, et une police municipale qui répond à la police du maire, à ce pouvoir du maire en matière de police, et qui est censée faire respecter les arrêtés, mais dont les prérogatives sont en train d'évoluer, puisque dans quelques jours, je crois que c'est autour de mi-novembre, le ministre soumet un nouveau texte, une réforme sur la police, la sécurité globale, une vision de la sécurité globale qui va augmenter les prérogatives de la police municipale pour leur donner plus de pouvoir sur le terrain.
Oui, parce que par exemple, très concrètement aujourd'hui, lorsque la police municipale prend quelqu'un et a besoin éventuellement qu'il soit arrêté, on a besoin de faire venir un policier national.
Oui, en fait, on a une perte de temps sur le terrain puisque les policiers municipaux constatent l'infraction, soit un flagrant délit, soit un trouble quelconque. Ils vont ils interpellent la personne et ils l'amènent au poste, au chef de poste ou devant l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui, lui, va être habilité par ses compétences à verbaliser ou en tout cas à prendre la suite du dossier.
Oui. Et donc, il serait question que les policiers municipaux puissent avoir une partie de ce pouvoir.
Voilà, sur des délits mineurs, là, élargir le champ des compétences de la police municipale pour la rendre plus efficace sur le terrain et éviter les pertes de temps, avoir une police opérationnelle.
Alors, police opérationnelle, ça veut dire d'abord un bâtiment tout neuf, puisque il y a petite année que la police municipale s'est installée dans l'ancien aspirateur.
Donc, totalement
reconverti en hôtel de police. Donc là, maintenant, tout le monde peut être logé confortablement.
Ce déménagement, c'était rendre utile un bâtiment désaffecté qui a été reconverti ponctuellement en lieu d'art, mais qui n'avait pas sa vocation dans ce registre. C'est anticiper la police municipale de demain, c'est donner aussi un marqueur fort sur la politique de sécurité du maire, c'est rendre un bâtiment fonctionnel avec toutes les composantes de la tranquillité publique, que ce soit le CSU, les ASVP, le poste radio, les agents eux-mêmes de police municipale dans un seul bâtiment pour le rendre très opérationnel et pour être le relais idéal avec le terrain qui est indispensable à Narbonne.
Oui. Alors tout d'abord, quelques sigles qui méritent explication. CSU, monsieur Bertrand.
Alors, centre de supervision urbaine, sont les caméras qui surveillent la ville.
C'est le centre de supervision urbaine, c'est-à-dire les caméras.
Hein. Les caméras.
Il faut traduire. ASVP, un autre site, le monsieur Malquier.
C'est les agents de surveillance de la voie publique qui verbalisent les contraventions sur les véhicules. Et donc, on a une petite équipe d'ASVP qui partage les bâtiments de la tranquillité publique.
Voilà. Donc, concrètement, aujourd'hui, un effectif d'une bonne cinquantaine.
Alors, un effectif de 47, exactement. 47 effectifs de police armée, de police effective, en dehors du personnel administratif.
Précisons qu'elle est armée, la police à Narbonne.
Elle est armée, effectivement. Donc, 47 policiers municipaux et des recrutements qui sont en cours. J'étais encore hier sur des recrutements qui vont permettre d'arriver à notre objectif de mandat, l'engagement de campagne qui a été pris par Nouveau Narbonne. 56 policiers municipaux.
À terme, c'est
ça. Un pour mille. Pas à terme. Ouais. Dès le recrutement sera terminé dans le 2021, d'ici le premier semestre 2021.
Donc on peut dire prochainement.
Oui. Très prochainement.
Et là, ça correspondra à ce que vous souhaitez.
Oui, parce que c'est un choix responsable, courageux, dans une période où on limite la dépense publique. On fait le choix, et le maire a le courage de le faire, c'est-à-dire dépenser immédiatement cette ressource humaine, c'est-à-dire embaucher les policiers qui nous manquent pour compléter l'effectif et tenir les engagements de campagne, avoir une police plus présente sur le terrain, plus visible, qui dissuade
et la nuit notamment,
et qui sanctionne, et qui va évoluer vers une police de nuit, effectivement.
Jusqu'à 2h du matin,
c'est jusqu'à 2h, c'est l'engagement de campagne que nous avions pris et qui correspond à une réalité, en fait. Nous avons 70% de nos problématiques qui sont sur bourg et cité, c'est-à-dire dans le centre-ville. Et l'essentiel des difficultés qui sont récurrentes, c'est cette tranche horaire entre 20h et 1h, 1h30, voire 2h du matin, où on a des problèmes de troubles de voisinage, d'insécurité, où il faut être présent.
Oui. Et vous aviez parlé lors d'une conférence de presse récente, justement, de tolérance zéro, de renforcement de la discipline républicaine.
Oui, de reconquête républicaine, oui, exactement. C'était la politique tolérance zéro qui a commencé et qui porte déjà ses fruits. Il y a beaucoup plus de verbalisation, le stationnement sauvage, l'abandon des déchets dans la rue. Nous avons une police présente en permanence au contact des concitoyens qui verbalisent, parce que il n'y a pas d'autre solution que de la rigueur. Il faut être répressif pour arriver à avoir ce vivre ensemble qui soit cohérent, qui ne soit pas qu'un champ lexical, mais qui soit une réalité dans notre quotidien.
Alors, on va conclure sur la police municipale et passer à l'agglomération. Donc, vous êtes également conseiller communautaire et vous êtes surtout président du Grand Narbonne Tourisme. Alors là encore, un mot d'explication, peut-être sur la structure elle-même. C'est dans le Grand Narbonne, mais c'est pas exactement le Grand Narbonne. Essayez d'expliquer, Bertrand Malquier.
Alors c'est un peu ça. C'est une compétence du Grand Narbonne, la promotion touristique. Et le Grand Narbonne a fait le choix en 2017 de créer un EPIC, c'est-à-dire un établissement public industriel et commercial qui puisse bien se substituer à lui pour remplir cette compétence. Cet EPIC a été créé.
Cet établissement public a été créé. Alors EPIC, c'est un établissement
public industriel et commercial.
Industriel et commercial.
A été créé. Il y a un comité directeur qui pilote ses orientations. On rend des comptes au Grand Narbonne, à son président Didier Moulier.
Et principal financeur.
Qui est le seul financeur. Parce que cet établissement public, ce Grand Narbonne Tourisme, pourrait avoir des ressources propres. C'est pas encore le cas. C'est un des axes de développement que nous souhaitons, avec le comité de direction, mettre en place rapidement, avoir des ressources propres pour limiter l'interventionnisme de l'argent public.
En fait. Oui, bien sûr. Et alors, quand vous en avez hérité, puisqu'il a été fondé il y a 2 ans, je crois, à peu près.
3 ans.
Il comportait, il comporte toujours plus ou moins, d'ailleurs, une bizarrerie territoriale, à savoir que il y a 3 communes du Grand Narbonne qui ne font pas partie de cet office de tourisme communautaire. À l'époque, c'était Narbonne, Le Cat et Gruissant. Je crois que ça va changer pour Narbonne et Le Cat. Mais pour Gruissant, qu'en est-il ?
Effectivement, c'est une des particularités. Le législateur légifère et les collectivités trouvent des parades pour
trouver des exceptions.
Donc c'était une de nos particularités. Le Grand Narbonne Tourisme représentait toutes les communes de l'agglomération, à l'exception des stations classées par une loi montagne qui a permis cette dérogation. Et donc Le Cat, Narbonne et Gruissant n'en faisaient pas partie. Nous, on l'avait clairement annoncé depuis janvier 2020. Narbonne avait pour vocation maintenant de rentrer dans ce grand Narbonne tourisme. Et le CAT, Michel Py, nous a emboîté le pas et a annoncé également sa volonté de rejoindre cet établissement public. Gruissant, c'est en cours. On est en train de discuter avec Monsieur Codorniou, que l'on voit d'ailleurs la semaine prochaine avec le président du Grand Narbonne, pour poser sur la table cette réalité, ce questionnement, et apporter des réponses et essayer de trouver un compromis. Aujourd'hui, il faut que l'on passe à la vitesse supérieure. Il faut que nous harmonisions notre politique de marketing territorial parce que nous avons une obligation de résultat vis-à-vis des socioprofessionnels, de tous les commerçants, de tous les particuliers qui vivent de ce tourisme. C'est un des poumons économiques de notre territoire, et donc il faut que l'on réussisse cette mission qui nous a été confiée.
À propos de marketing, alors vous cherchez à définir une image, comme on dit, sur un produit avec son prestige et justement son image. Du côté de Fleury, récemment, on est parti sur une image nouvelle aussi, qui est la côte Indigo. Ça risque pas à un moment de faire un peu sécessionnisme?
Non, parce que André-Luc Montagnier avait annoncé dans sa campagne qu'il voulait uniformiser au niveau commercial. C'est un communicant, donc il a voulu créer cette entité commune, ce dénominateur commun à ces trois charmantes entités qui sont les cabanes Fleury et Saint-Pierre. Et c'est une question qui appartient à cette commune, mais qui n'empêche pas, loin de là, il fait partie du comité directeur, c'est un membre important.
Ah oui, Fleury est à part entière dans cette...
Et son maire est le représentant direct, donc l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. C'est ce brainstorming, cette réflexion partagée que l'on mène avec le comité directeur qui va nous permettre d'avoir cette dénomination également pour notre territoire. Même s'il existe historiquement des noms pour notre Grande Narbonne, pour notre région, aujourd'hui il y a des incohérences. Quand vous avez un site internet qui s'appelle visite-lanarbonnaise.com, alors que le support, c'est-à-dire l'appellation, c'est Grande Narbonne Tourisme Méditerranée, c'est déjà la première incompréhension pour le touriste. Et ensuite, il faut savoir se démarquer. Aujourd'hui, nous rentrons dans une période où nous allons rentrer avec le confinement, avec la crise sanitaire. Les Français ont redécouvert notre territoire national, les frontières sont fermées, les gens doutent sur les voyages à l'étranger, ils veulent redécouvrir le territoire, nous sommes dans une concurrence de territoire.
Voilà, il y a une carte à jouer,
peut-être
due au Covid-19.
Exactement, il y a une carte à jouer. Pour jouer cette carte, il faut d'abord qu'on se mette en capacité bien d'attirer et de se faire connaître. Je suis pas, moi, partisan de créer des choses nouvelles, inventer des choses qui sont éphémères. Aujourd'hui, tout notre trésor est déjà en place. Nous avons un littoral magnifique. Nous avons une histoire patrimoniale avec Narbonne, avec Mayac. Nous avons des particularismes avec nos étangs, avec l'île Sainte-Lucie également. Nous avons une richesse viticole, une richesse gastronomique. Tous ces trésors sont chez nous déjà. Voilà. C'est à nous de les faire connaître, les faire adopter. Et je suis certain qu'une fois qu'on aura fait goûter notre particularisme du Grand Narbonne, eh bien les gens reviendront et là on aura gagné la partie.
Voilà, du pain sur la planche en tout cas pour le marketing. Et on conclut cette deuxième partie. Merci Bertrand Malquier.